look down outside the wall. Some hand in hand, and some gathered together in bands. The bleeding hearts and the artists make their stand. And when they've given you their all, some stagger and fall. After all, it's not easy, banging your heart against some mad bugger's wall.
Radio Canut vous présente dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre. Maxime. Production. Mise en scène. Junier Jean-Pierre. Enregistrement. CVRP.
Est un homme grand, maigre, une tête osseuse avec des cheveux gris. Ils sont dans son bureau. Après avoir entendu la mère, qui lui a tout dit, enfin, ce qu'elle savait, le cardinal lui dit « Je comprends votre souffrance, madame, et je compatis, mais votre fils a tué. Je vais parler avec le monsieur le ministre de la Justice de Sa Majesté. Savoir ce qui en est et voir ce que nous pouvons faire. Le crime a été fait à l'étranger. Peut-être que la justice française, nous verrons bien. Mais il faut que tout de même votre fils puisse réparer ce qu'il a fait et demander pardon à Dieu. S'il n'est pas pris par la justice des hommes, je souhaite qu'il entre au couvent. Oh mon Seigneur, ce serait comme s'il était en prison. Il faut pourtant qu'il fasse pénitence. Si ce n'est pas le couvent, ce sera le séminaire. Je vous remercie, Monseigneur. Je vais voir le ministre et lui dirai qu'il a choisi comme pénitence de rentrer au séminaire. Merci, Monseigneur. Je fais don à l'Église de ma fortune personnelle. Faites un don si vous le voulez, mais je ne veux pas l'entendre. J'aide votre fils, c'est pour la justice divine et non pour les biens terrestres. Sois bien clair. Heureuse, les choses s'arrangent bien. Son fils va devenir prêtre, donc il va se rapprocher de sa vie, de son univers. Les curés, leur monde, elle connaît. Comme une âme en peine. Mathilde, sa Mathilde, que son fils lui a prise, il ne sait plus où elle est. Sa chose a disparu. Tous les après-midi, il passe devant ses fenêtres. Il ne peut s'empêcher de faire autrement. Il est attiré comme un aimant par le souvenir des plaisirs et passé et la vengeance à venir, car il souhaite se venger et lui faire payer de l'avoir quitté pour son fils. Chaque jour, il s'imagine les retrouvailles. Il la voit dans la rue, lui demandant à genoux pardon et le suppliant de la reprendre. Lui la traiterait en putain, garce, la battrait, la tirerait par les cheveux, lui déchirerait ses vêtements et la prendra à même le sol pour lui prouver qu'elle est sa chose. Il la fera jouir. Puis, lui donnera des coups de pied dans le ventre et la jurera. Puis, l'enfermera à clé dans son appartement. À chaque fois qu'il pense à cela, il en bave de plaisir. Ses yeux s'agrandissent, ils se raidissent, ses mains se crispent, son corps a l'impression de vraiment jouer la scène qu'il s'imagine.
Quelle soirée en perspective!
De temps que nous y retrouverons le comte. Et depuis quelque temps, il a tendance à délaisser Olympe. Et je gage que, enfin, si je ne m'abuse, bien je pense qu'il ne tardera pas en fait.
Oh.
Pardon, madame.
Les jours passent, coup de froid, ne voit rien, n'entend rien, les prix par sa vengeance et sa jalousie. Louise, une semaine après avoir été voir le cardinal et convoquée par lui, il a vu le ministre. Le ministre a compris, madame, ce qui s'était passé, que c'était une erreur de jeunesse. Comme ce malheureux crime s'est passé hors de France, il est prêt à fermer les yeux, mais veut, tout comme moi, que votre fils se rachète et fasse pénitence. Je lui ai parlé du séminaire, cela lui a plu. Servir Dieu et les hommes, voici un bon, une bonne vocation et un bon rachat. Je vous remercie, Monseigneur. Je suis très heureuse, et mon fils aussi. Je vous promets, et il vous promet, qu'il se rachètera bien. Cela est bien. Voici l'adresse du séminaire et le nom de son supérieur. Il a été prévenu, mais ne craignez rien. Je n'ai pas dit le pourquoi. C'est simplement que c'est un fils de bonne famille qui souhaite rentrer au séminaire. Un après-midi, Godefroy, en passant devant les fenêtres de l'appartement de Mathilde, voit que les volets sont ouverts. Sa gorge se serre, son corps se met à battre la chamade. Bien sûr, il souhaitait son retour, mais à l'intérieur de lui-même, il n'y voyait plus. Ce n'est pas possible. Je n'y croyais plus.
Dixmer,
je n'imaginais plus son retour. Ce n'est pas possible. Peut-être que l'appartement est loué à une autre personne. Alors, il se décide à entrer dans l'allée. Va frapper à la porte de la concierge. Elle lui a ouvert.
Oui.
Je désirerais savoir si mademoiselle Mathilde Sève est chez elle.
Oui, bien sûr, elle est arrivée hier au soir. Et pourquoi?
Rien, je suis un ami, merci.
Elle ferme sa porte.
Godefroy, tremblant, monte à l'étage. Sa gorge se serre. Il ne sait plus où il va, ce qu'il va lui dire. Il est arrivé au palier. Il va sonner. Il entend des pas derrière la porte. Le bruit de la serrure. La porte qui s'ouvre. Elle est là, en robe noire, les cheveux défaits, superbes mais dignes. Elle semble revenir d'un veuvage, pas à cause de la couleur de sa robe, mais de son maintien, de la dignité qui l'entoure. Il est subjugué et en même temps troublé par cette Mathilde qu'il ne connaît pas. Mais il la trouve très belle. Sa gorge se desserre un peu. Je peux entrer? Il a mis un pied pour qu'elle ne puisse pas fermer la porte.
puisque tu le souhaites. Entrez.
Il entre.
Elle laisse la porte ouverte. Il la ferme avec le pied. Je vois que vous n'avez pas changé, lui dit-elle.
Non, je n'ai pas changé. Et toi non plus. Tu es revenu. Je savais que tu reviendrais. Tu ne peux pas te passer de moi, mon petit saligaud de fils. Ne t'as pas fait oublier, nous deux. Tu es à moi, rien qu'à moi.
Elle le regarde d'un air là. Vous vous trompez, je ne serai jamais à personne, surtout pas à vous.
C'est ce que nous allons voir.
Nous ne verrons rien, c'est fini entre nous. Je ne serai jamais à vous, parce que vous me dégoûtez. Tout ce que vous touchez devient pourriture. Elle fait quelques pas. Puis se retourne vers lui. Vous ne m'aurez jamais. Vous ne m'avez jamais aimé. Ce que vous aimiez, c'était que je sois à vous, que je vous appartienne comme un objet, une bête. Toute notre liaison m'avait fait que de m'humilier. Maintenant c'est fini. Vous m'entendez? Vous m'avez eu durant toutes ces années. Cela suffit. Je veux vivre seul. Allez-vous-en. Nous n'avons plus rien à nous dire.
C'est ce que nous allons voir.
Il se rue sur elle, l'attrape par les bras et la secoue.
Tu es à moi, tu m'entends? Tu es à moi. Tu m'appartiens.
Jamais.
C'est ce que nous allons voir.
Tu n'auras rien.
D'un geste brusque, il la fait tomber à terre. Mais ne se défend plus. À quoi bon? Il ne lui offrira rien. N'aura rien volontairement consenti par elle. Il est couché sur elle, lui arrache, déchire ses vêtements et ses sous-vêtements. Elle reste comme morte. Puis, il se déculotte. Pris de fureur, tremblant, il la prend.
Morte, jouit. Tu es à moi.
Il se relève. Range ses vêtements.
Jouir, salope.
Il lui donne un coup de pied dans le ventre. Elle ne bouge pas.
Je n'ai rien ressenti. Pas le moins de plaisir. Tu ne peux que dégrader, souiller tout ce que tu touches.
M'apporter du plaisir, non.
Tout à coup, il se souvient qu'il n'a pas entendu jouir. Il n'a pas entendu son plaisir à elle. Pas apporter plaisir, tu dis. Si du plaisir, tu ne peux pas en avoir avec moi, tu auras de la souffrance. C'est la même chose. Tu seras à moi.
Quitte sa ceinture et la frappe sur tout le corps. Elle a retenu ses cris. Son excitation est tombée. Il lâche sa ceinture à terre. Son corps est plein de balafres rouges, mais elle n'a pas crié. Sachant que faire,
Il sort de l'appartement en laissant sa ceinture au sol. Dehors, la nuit est tombée. L'air frais lui fait du bien. Tout d'un coup, comme après une douleur très forte, il se sent mieux et sa jalousie, Mathilde, ont disparu de son esprit. Il est libéré. Chez lui, il retrouve sa femme au salon. Qui lui parle de sa visite au cardinal, à Maxime, à son histoire, qui le ramène à Mathilde. Cela l'irrite. Il avait oublié Mathilde et voulait qu'on la lui... Et voilà qu'on la lui ramène. Et en lui rappelant sa jalousie pour Maxime. Aimait voir son fils au diable.
Je ne veux plus le voir. Fais ce que tu voudras, mais je ne veux plus entendre parler de lui.
Sa femme pense qu'il est dans cet état parce que Maxime a tué son ami Hubert. Elle se dit, je comprends, c'est humain. Le lendemain, Louise est partie voir son fils pour lui annoncer la nouvelle. Maxime se trouve toujours au grenier. Il se morfond. Pense à sa vie gâchée, à Gisèle, et se sent prisonnier dans cette pièce. Les jours diminuent, il fait plus froid, il s'ennuie, personne à qui parler. Du haut de sa lucarne, il ne voit qu'un paysage qui se meurt petit à petit. C'est triste la montagne en hiver, tout est mort. Est arrivée au château. Elle demande au domestique comment va son fils. On lui dit qu'il mange peu et s'ennuie.
Désormais, mon fils est libre d'aller où il le désire. Vous lui préparez sa chambre et je veux qu'il prenne de l'exercice, une heure de cheval par jour. Il faut qu'il soit en forme pour aller au séminaire. Bon, je monte voir vos fils.
Elle a frappé à la porte de sa chambre. Entrez. Elle entre et ferme la porte. Elle le trouve amaigri et tout triste.
Mère. Oui, ta mère, qui a fait ce long voyage pour t'apporter une bonne nouvelle.
Asseyez-vous, mère. Elle s'assoit sur la chaise et lui sur le rebord du lit. Elle lui prend la tête dans ses mains et l'embrasse sur le front.
Mon pauvre chéri.
n'ai guère été une bonne mère pour toi. Il ne faut pas m'en vouloir. Le mariage, être mère, n'était sans doute pas fait pour moi. Tu sais, on ne fait pas ce que l'on veut dans la vie. L'on m'a marié pour arranger les affaires des deux familles, sans me demander mon avis. J'ai fait ce que j'ai pu, mais pas ce que j'aurais dû. Mon corps n'y était pas. Maintenant, le temps a changé. Je vois les choses autrement. Le corps y est. Je me sens vraiment mère. Sinon, épouse. Tu me diras qu'il était temps. Un grand-fils de 19 ans. Oui, mais je vais essayer de rattraper le temps perdu. Le temps perdu. Maxime se dit que s'il peut enfin avoir une mère, il se sent tout ému devant elle. Il a l'impression de voir pour la première fois. Il se dit aussi que durant toutes ces années, il ne s'était pas rendu compte que sa mère était malheureuse. Ce qui est faux, mais elle l'a été seulement quelques mois. Avant, quelques mois avant cette histoire. Elle sourit et dit « Voilà la nouvelle. À Paris, je suis allée voir le cardinal et lui ai parlé de ton affaire. Il en a parlé au ministre de la Justice qui veut bien fermer les yeux sur ce drame qui d'ailleurs s'est passé en Italie. Mais il faudra que tu fasses pénitence et que tu rentres au séminaire. » La joie de Maxime disparaît. Au séminaire? J'ai pas la vocation, ce serait la prison pour moi. C'est cela, ou peut-être la guillotine. Et puis, réfléchis bien, le métier de prêtre. J'ai pas la vocation. On ne te demande pas de l'avoir, mais de faire sacrifice de ta vie. De cette sorte, et puis, la foi, elle peut venir comme cela. Combien de prêtres qui ne l'avaient pas l'ont eu? Ma mère, je ne peux pas, ce serait un blasphème, et je ne veux pas sacrifier ma vie comme cela. Mon corps est pris. J'aime. La mère semble devenir folle. S'il refuse, c'est sa mort. Tu aimes? Tu aimes qui? La fille avec qui tu es partie? Non, Gisèle. Elle secoue la tête. Quand? Il était temps, il fallait la prendre. L'on te la donnait. Tu ne l'as pas voulu. De toute façon, mon pauvre garçon, tu es définitivement perdu. Même si tu refuses le séminaire, en prison, on ne peut pas se marier. Et tu perdras en plus de Gisèle la vie. Je ne peux rien faire de plus pour toi, mon petit. Réfléchis, ton destin est entre tes mains. Je vais te laisser réfléchir seul. Elle l'embrasse, se lève et sort. De peur qu'il ne fasse une bêtise, elle dit au domestique qu'il ne faut pas qu'il sorte de sa chambre. Maxime, seul, dans sa chambre, réfléchit, allongé sur son lit. Ceci est de ma faute. Je suis coupable. Gisèle m'était promise, je n'aurais pas dû prendre Mathilde. J'étais aveugle. Mais je m'en suis bien puni. J'ai perdu à jamais Gisèle. Ne devrais-je pas marcher à l'échafaud la tête haute, puisque plus rien ne m'attache à ce monde? Ne suis-je pas assez puni pour cela, mon Dieu? Pourquoi vouloir m'imposer une vie qui ne serait que contraire, où je serais, où je ferais semblant de vous aimer? Maxime s'enfonce dans ses pensées comme au fond d'un gouffre, et en même temps il s'y complaît, car ça lui fait du bien de souffrir pour Gisèle.
Mais c'est dur pour un jeune homme qui n'a que 19 ans de savoir que sa vie est finie. Il a un moment envie de mettre fin à ses jours, chose stupide, puisqu'il a tout fait pour éviter qu'on mette fin à sa vie. Mais dans ses pensées, tout s'embrouille et devient si noir. Il se lève et sort de sa chambre en cachette. Descend les escaliers sans être vu. Entre dans le bureau de son père. S'approche du bureau, ouvre un tiroir, en sort un pistolet, un vieux pistolet que son père avait en permanence sur lui durant la Révolution. Il l'ouvre. L'arme est prête à servir, met l'arme dans sa chemise et sort du bureau. Il remonte à sa chambre. Entre et ferme la porte. Le soir est tombé, pas de bruit. Tout à coup, un coup de feu qui fait sursauter Louise qui est au salon. Elle veut savoir ce qui s'est passé et sort du salon en courant. Trouve un domestique dans le couloir. Qui a tiré? Je ne sais pas, madame. Le bruit provenait d'en haut. Oh! Mon Dieu! Elle sent que Maxime est en danger. Montez avec moi! Et il monte au grenier. Elle frappe à la porte. La pousse, elle est restée entrouverte. Oh! Mon Dieu! Elle le voit à terre, la poitrine en sang. Vite, allez chercher un médecin. Elle ne dit rien à personne. Le domestique s'éloigne en courant. Elle s'approche de Maxime, se penche. Voit qu'il remue légèrement les lèvres. Pauvre fou, pourquoi tu fais cela? On fait tout pour te sauver, et toi? Elle pleure, elle caresse ses cheveux. Surtout ne meurs pas. La nuit est définitivement tombée. La pièce est dans la pénombre. À Paris, le père est redevenu fou, et cette fois pour de bon de Mathilde. Il la sent près de lui, et pourtant, elle est inapprochable. Si elle était loin de lui, il l'aurait peut-être oublié. Mais là, il la sent si près et si loin en même temps. Si près. Il ne peut la toucher. Chaque soir, il passe un moment sous ses fenêtres, il la sent,
mais n'ose pas monter chez elle. La peur de la concierge. Elle a dû lui dire qu'elle ne voulait plus le voir. Et la peur qu'elle ne le reçoive pas. Là, par tous les temps, il attend qu'elle sorte pour pouvoir lui parler. Reste sur le trottoir d'en face, face à la porte palière. Il reste une heure, deux heures, peut-être plus, peut-être moins. Il ne sait, car il est dans toutes ses pensées. Les premiers temps, ça le gênait de rester ainsi. Il se disait que tous les gens devaient trouver bizarre cet homme qui restait ainsi, sans bouger. Puis, il n'y a plus pensé. Ce soir, la nuit est tombée plus tôt encore que d'habitude. Il fait très froid. Il n'y a personne dans la rue. Les réverbères ne sont pas encore éclairés. Tout à coup, un fiacre s'arrête devant la porte palière. La porte s'ouvre. C'est elle, en noir, manteau, chapeau, avec voilette et une mallette à la main. Coup de foie tremble de tous ses membres. Il accourt vers elle juste avant qu'elle n'ouvre la porte du fiacre. Mathilde ! Elle ne le regarde pas, mais il voit sous sa voilette son visage blanc, pâle, lisse, sans expression. Je viens te parler, Mathilde. Je veux te revoir. Je t'aime. Elle ouvre la portière, s'engouffre dans le fiacre et ferme la portière. Je veux te revoir, Mathilde. Il le faut. Elle tape sur la vitre. Et, d'une façon neutre, partez. Le fiacre part. Le fiacre est parti. Court après et lui crie de la portière. Salope! Tu me préfères à Maxime! Maxime s'est mis une balle dans le corps! Elle a entendu. Monte sa voilette, étouffe. Mais ne pleure pas, non, elle a trop mal. Maxime, son Maxime, le seul qu'elle a vraiment aimé et qu'il a vraiment aimé, est mort. Elle ferme les yeux et se laisse tomber sur le siège. Elle part pour quitter et s'éloigner, pour oublier tout ceci, partir loin, très loin. Et voilà juste à la seconde de son départ qu'on lui apprend la fin de sa vie. Elle veut que le fiacre l'emmène loin, loin dans la nuit. très loin, au fond de la nuit. Ne plus rien voir, ne plus rien entendre. Le plus loin possible de la nuit, dans la nuit. Très très loin, très loin, très loin. Ne plus jamais revenir. Jamais, jamais. Y voir le soleil, y a rien. Tout est fini.
Avait reçu une lettre lui annonçant la tentative de suicide de son fils. Il n'en avait éprouvé aucune peine et cela lui avait permis de se venger de Mathilde. La blessure de Maxime n'est pas mortelle. Sa mère et le médecin le soignent.
Ce n'est pas facile de vivre après avoir raté son suicide. On se sent ridicule, gêné vis-à-vis des autres. On a l'impression de vous être mis à nu devant tout le monde. Et puis, on a aussi l'impression d'être épié. Dans ce cas-là, on n'a pas envie de parler. On vous pose sans arrêt des questions, comme l'on aimerait être seul. Oh oui, comme l'on aimerait être seul. Sa mère est toujours près de lui et lui fait la leçon pour lui montrer que la vie vaut la peine d'être vécue. Il a été remis dans sa chambre.
Après-midi, sa mère vient le voir et lui dit « Je sais que cela va te faire du mal, mais il faut que tu le saches. J'ai reçu le faire-part des fiançailles de Gisèle. De toute façon, elle ne pouvait pas t'épouser après ce drame. Tu sais, je sais ce que tu ressens, mais que veux-tu? Tu vois bien qu'il n'y a que le séminaire pour toi. Et puis, ce n'est pas parce que tu vas rentrer au séminaire que tu dois être prêtre. Si dans quelque temps tu n'as toujours pas la foi, tu partiras et tu seras libre. Maxime ne pense à rien. Tout s'embrouille dans sa tête. Il aimerait être seul pour y voir plus clair. Et puis, de toute façon, il se fiche d'aller au séminaire ou non. Puisque sa vie est ratée. Alors, pour pouvoir être tranquille, oui, je veux bien y aller. C'est vrai, mon fils? Oui, mais laissez-moi seul. Bon, que je suis heureuse. Elle sort de la chambre. Maxime souffre. Il se dit, de toute façon, je devrais être mort.
Thank you. pleine joie de vous revoir.
Oh là là, quelle soirée en perspective.
Ah, de temps que nous y retrouverons le comte. Et depuis quelque temps, il a tendance à délaisser Olympe. Et je gage que, enfin, si je ne m'abuse, bien je pense qu'il ne tardera pas en fait. Oh, pardon, madame.
Dans son hôtel particulier, gros de froid et à son bureau. Voilà des semaines qu'il vit comme dans un cauchemar, à errer dans les rues, à courir les filles, boire. Il en a la tête qui tourne. Ce matin, il s'est réveillé, la tête vide, la langue porteuse, et des courbatures dans tout le corps. Il s'est réveillé, tout habillé sur le lit, les vêtements sales, il sentait une odeur infecte. En se levant, il voit que le dos de son pantalon et ses chaussures sont pleines de boue. En quittant sa veste, machinalement, il voit qu'elle est tachée dans le dos de traînées rouges comme du sang séché. Une fois déshabillé, il va dans la salle de bain pour prendre un bain. Ceci le réveille et trouve surprenant qu'il ait mis ses vêtements dans un tel état. Je me souviens de rien. Je devais être ivre. En se rasant, il voit qu'il y a des griffes à ses joues et au cou. Qui a bien pu me faire cela? Et il se souvient des traînées qu'il a sur le dos de sa veste. Voyons un peu. Il faut que je me souvienne. Oui, je dois me souvenir. Que m'est-il arrivé ce soir, cette nuit? Il sort de la salle de bain. Sort de sa chambre, habillé de neuf, songeur. Qu'ai-je bien pu faire? Il regarde ses mains, il se souvient de cris de femme, puis de quelque chose de lourd sur son dos. Qu'ai-je bien pu faire? Il ne sait quoi, mais il a l'impression qu'il s'est passé quelque chose de terrible. Et qu'il faut qu'il s'en souvienne à tout prix. Durant toute la journée, il s'est demandé ce qu'il a bien pu faire. De temps en temps, des images diffuses lui apparaissent. Un lieu noir, des murs voûtés, des bruits d'eau, cette étrange sensation sur le dos.
découragée, monsieur. Je cherche un emploi.
Ce n'est qu'à la nuit tombée, sur ses pas, l'ont menée machinalement dans une rue populaire, que son regard s'est posé sur le porche d'une vieille maison lépreuse. Elle a fini par se souvenir.
Laissez-moi.
Je veux rentrer un moment.
Non.
Il n'allait tout de même pas m'empêcher d'entrer. Comme l'autre. Décidément, ce sont toutes des garces. Je vais lui montrer qui je suis. D'un geste, je la pousse dans l'appartement. Et j'entrai. En fermant la porte derrière moi.
Voulez-vous?
Salope, vous êtes toutes pareilles. Et tu vas payer pour l'autre. Je la pousse à terre et me jette sur elle. Elle se débattait comme une gueule, cette garce, me giflait de partout. Enfin, j'ai pris la tête et la cognai contre le sol. Elle ne bougeait plus. J'en profite pour lui relever les jupes. Enlever sa culotte, le déculotter et la prendre. Après avoir joui, qu'elle ne bougeait plus, qu'une traînée de sang coulait le long de sa bouche et que ses yeux restaient grands ouverts. Je me levai d'un coup. Et pris une idée idiote, car j'aurais bien pu laisser le corps où il était. Je décidai de le cacher. Je le pris et le sortis de la maison. Il était très tard. La rue était vide. Le corps sur mes épaules me semblait d'un grand poids. Je ne savais où mettre le corps, mais il fallait que je le cache. Passant devant une bouche d'égout, sans doute des égoutiers, je descendis avec le corps sur mes épaules, suais. Je ne savais pas pourquoi, je marchais durant des heures dans ces égouts, suant, puant, fatiguant.
avant de les poser dans un coin.
Radio Canu, dans sa série L'écran radiophonique, vous a présenté un scénario original de Julien Jean-Pierre, Maxime, dont c'était la sixième partie. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement, CVR.